Rebienvenue aux voyeurs de vue. Dans vos oreilles présentement, c'est deux personnes qui ont vu des vues, dont moi-même, Yannick Belzil.
Et moi, Alex Rose.
Alex, on va commencer. On va aller dans le vif du sujet.
Oui.
Les vues qu'on a vues.
Oui, les vues qu'on a vues. C'est un peu fucké parce que les voyeurs de vue se veulent un show à chaque semaine, hebdomadaire.
Oui, idéalement.
Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne nécessairement. Mmh. Et donc là, cette semaine, on a vu une vue mercredi, on a vu une vue samedi matin.
Et on va en voir une autre mercredi.
Exact. Faudra repasser là-dessus, je suis pas certain. Okay. Mais ouais. Mais en théorie, tu sais, oui, en théorie, il y en a un autre mercredi. Donc, ça fait que, comme par exemple, pour la structure où est-ce qu'on parle de ce qu'on a vu cette semaine... Si on les tape aussi près l'un de l'autre...
Ouais, il faut quand même essayer de glisser des films.
C'est ça. Fait que là... pour un petit peu d'inside baseball, maintenant, on tape le show le lendemain de la vue qu'on a vue.
Oui, absolument. On le fait direct après, mais là... Justement, des fois, la vie va autrement. Alors, on enregistre...
On a des voyeurs de vie, des fois, aussi.
Oui, exactement. Faut voir un peu. Car entre les vues, faut voir les vies.
Exactement.
C'est très important. Moi, je vais commencer. Il y a deux films que j'ai vus cette semaine qui ne sont pas notre film principal. Notre film principal, notre feature, notre main feature, qui est bien sûr Sonic the Hedgehog.
Évidemment.
Le film de Jeff Fowler, basé sur le personnage iconique des jeux vidéo de Sega. Pour les fans de Trivia, Sega, qui est le nom d'une compagnie qui faisait des machines d'arcade, qui s'appelait Service Games avant. Ils ont transformé leur nom en Sega. Bref, oui, ça. Alors, on a vu d'autres films cette semaine, avant Sonic. Et puis, ben pas avant, mais qu'on va parler avant Sonic. Moi, il y a deux films que j'ai vus. Et mon premier, c'est Mistress Americana.
Ah oui, oui.
Que j'ai écouté, que j'avais vu un bout avant qu'on enregistre le dernier épisode.
Tu étais en train de l'écouter quand je suis arrivé.
Ouais, j'avais écouté un petit bout, puis là, j'ai écouté le reste plus tard, qui est disponible sur Netflix. En fait, je crois que l'affaire, il était à Sundance, puis immédiatement zippé à Netflix.
Ouais. Le film dont je vais parler également, c'est ça qui est arrivé.
Ah ouais?
Ouais. Okay. Donc...
Fait que c'est devenu commun, ça, maintenant?
Ça a toujours été commun, en fait. Parce que, tu sais, Sundance, je veux dire, on dit que c'est des films indépendants, mais c'est pas vraiment le cas maintenant. C'est plus un type de film qu'on parle. Des fois, les films qui sont à Sundance sont backés par un studio, des fois, non. Et des fois, tu sais, c'est des films qui ont été produits de façon indépendante et achetés par un studio avant même de passer à Sundance. Fait que là, comme à Sundance, cette année, la grosse acquisition, c'était Palm Springs avec Andy Samberg. Un film avec Andy Samberg qui est vendu pour genre 18 millions à Netflix, si je me souviens bien. Mais Sundance, c'est ça aussi, c'est un gros marché. Fait que ça a toujours été, tu vas porter ton film à Sundance, t'espères que ça va se faire acheter. Tu sais. Puis maintenant, plus ça va aussi, plus les films de Sundance sont, mettons, des vedettes dedans, des gens de la TV, tout ça. Donc plus ils sont attrayants pour les services de streaming, tu sais. Parce que quand tu parles de Cannes ou de TIFF ou tout ça, d'habitude, ces films-là, ça peut être des films plus pointus, plus difficiles un peu, tu sais, c'est moins de remplissage de possible avec, tu sais, mettons, les films en compétition à Palme d'Or, s'ils n'ont pas déjà de distribution. Tandis que Sundance, c'est souvent, tu sais, des comédies romantiques, des petits drames, des affaires qui se font plus vraiment dans le système de studio, mais qui sont comme studio adjacent, tu sais, fait quelque chose comme... ben, mettons Downhill, là, qui sort le remake de Force Majeure avec Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus, a joué à Sundance. Mais ça, c'était déjà tout organisé, tu sais. Mais c'est très ça, un film de Sundance, maintenant. Tu sais, une affaire avec des stars reconnues sans nécessairement être leur gros... Tu sais, Holmes and Watson n'iraient pas à Sundance, mais un film de Will Ferrell comme Downhill, peut-être, tu sais. Fait que... Ben, avec les documentaires, là, c'est ça l'affaire aussi. C'est que les documentaires, ça vend vraiment mieux maintenant qu'avant. Parce que jamais le monde allait au cinéma voir des documentaires.
Mais c'est ça, le streaming et surtout Netflix a comme ravivé une forme de documentaire.
Ouais, puis a vraiment enorgueillisé les gens qui disent « Moi, je regarde des documentaires, seulement des documentaires. » Tu sais, c'est pas une affaire que tu pouvais dire quand c'était dur de trouver des documentaires. Fait que tu sais... Puis là, ça peut être de ce petit scrap de Netflix. Il y a plein de scraps là, sur les streamings, des affaires qui sont genre du sous-canal D. Puis Puis donc ça, ça a été à Sundance, mais je sais pas si ça a été acquis à Sundance ou ça l'a simplement joué à Sundance, parce que justement, les festivals de cinéma maintenant, surtout les gros, là, Cannes, TIFF, Sundance, puis moins important, Venise, New York, puis Berlin, servent aussi un peu comme tremplin pour le film. Tout le monde, tu sais, toutes les stars, là, tout le monde va être là, il va y avoir plein de médias, fait que ça fait beaucoup de promotions gratis-ish. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça aide à mousser l'engouement pour un film. Surtout, ça, c'est doublement important maintenant que, justement, le film ne sort pas au cinéma. Fait que, c'est une situation comme, justement, Miss Americana. C'est une très bonne idée de le faire partir à Sundance, justement, parce que c'est un documentaire qui sortira pas au cinéma. Donc, pour en faire parler, tu sais, le bouche à oreille, il faut qu'il soit fait un peu avant. Justement, parce que tu verras pas les posters sur l'autobus ou tout ça, tu sais, le monde va pas aller se garocher pour le voir. Mais ça arrive de plus en plus.
Bref, oui, c'est ça, c'est sorti récemment sur Netflix, Miss Americana, un documentaire réalisé par Lana Wilson. C'est un documentaire qui suit Taylor Swift dans sa vie comme post son album Reputation, qui n'était pas le succès escompté, mm-hmm. jusqu'à la sortie de son nouvel album Lover. Pour montrer, c'est dans les premières scènes du film, on la caméra qui suit toujours pas mal Taylor Swift. La film, elle, alors que je crois son agente ou une personne de PR l'appelle pour lui dire les catégories aux Grammys, puis y dire qu'elle n'est dans aucune catégorie.
Oh boy.
Fait okay. que ça c'est comme le film commence avec ça. Puis moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, OK, elle donne un accès vraiment sans précédent aux caméras. Il y a des parties de sa vie qu'on voit pas, ben, comme elle a un chum qui était dans Billy Lynn's After Walk.
Ah, ouais. Joe Elwyn.
Comme tu sais, lui, maintenant, on le voit de loin avec une casquette qui cache sa face. Là. C'est quasiment artful la façon qu'on le voit pas.
Ouais, ouais.
Fait que bref, on voit sa vie et ça suit comme cette année-là de sa carrière où qu'elle a été dans un procès pour harcèlement sexuel. Il y a un DJ de radio qui avait pogné les fesses sur une photo. Puis, tu sais, elle a su à travers ça et à travers son éveil politique, alors que Taylor Swift devient woke, on l'a su aussi à travers la tournée, écrire des tunes, rencontrer des fans, mais à travers cet éveil-là, puis comment qu'elle s'ostine un peu avec sa gérance, qui dans ce cas-ci, c'est ses parents, de s'afficher politiquement. Puis. Jusqu'à la sortie du nouvel album Lover, puis des tunes, tout ça, puis comment elle s'implique politiquement. C'est vraiment intéressant de cette façon-là, mais c'est aussi clairement une patente de PR calculée.
Mm-hmm.
Mais quand tu la vois écrire, moi, une réalisation qui m'est arrivée, c'est que mes bouts préférés du film sont les scènes où elle écrit des chansons, puis avec un de ses producteurs, puis tu vois qu'elle, des fois, comme pas des. Qu'elle a un beat, puis qu'elle a comme un deux tiers de phrase complétée, puis là, après, elle trouve le dernier tiers de la phrase sur le beat en même temps en parlant avec son producer. Ça, je trouvais que ça ressemblait à de la vraie créativité, là, fait que je trouve ça nice. Mais elle, c'est une chanteuse pop qui est extrêmement populaire, puis elle écrit la plupart de ses chansons, si c'est pas toutes ses chansons. Mm-hmm. Fait qu'elle va chercher des vrais morceaux d'elle pour écrire des chansons qui traitent de ses émotions-là, même si c'est une version fake de ses expériences. Mm-hmm. Puis le documentaire, il est comme ça, parce que moi, j'ai l'impression que ce qu'elle montre, son éveil politique, puis tout ça, c'est des affaires qu'elle s'est questionnées pour de vrai, mais j'ai
pas de la façon que le film le démontre.
Je pense pas que le film le démontre de la même façon. Fait qu'il y a comme un genre de mise en abîme qui m'intéresse vraiment, parce que je pense qu'elle nous montre toutes des affaires qu'elle pense pour de vrai, qui sont arrivées pour de vrai, mais sont juste replacées d'une façon particulière. Mm-hmm. Puis moi, je trouve ça vraiment fascinant que... Puis tu sais, elle adresse souvent que être une femme, c'est plus difficile. Puis elle parle de « faut que tu sois stratégique, mais si t'es trop stratégique dans la vie, tu te fais appeler calculating.
Ouais. »
Mais tu sais, tu pourrais dire ça pour tout ce film-là en entier.
Ouais.
Y a le, tout cet aspect-là du film, moi, m'a vraiment fasciné de façon méta. Mais je pense pas que c'est... Je pense que t'es supposé... Il a regardé ça, puis il faut comme « Ah, elle m'a arraché, puis là, elle se relève. » Puis...
Mais c'est, ça, c'est quand même... Là, je l'ai pas vu, là, fait que je peux pas dire, mais dans la tradition du rock doc, c'est souvent ça, tu sais. Juste pour dire, là, comme récemment, il est sur Netflix aussi, le film de Bob Dylan, The Rolling Thunder Review, que Martin Scorsese a fait. C'est un faux documentaire, mais pas. Dans la mesure où Scorsese avait des centaines d'heures de footage que Bob Dylan avait vraiment tourné en 1960, sur cette tournée-là, là, entre 75 et 77, genre. Parce que lui tournait un film, Ronaldo and Clara, qui est un esti d'affaires de charabia incompréhensible de Bob Dylan qui dure 4 heures avec toutes des affaires qui font pas de sens. Fait que lui, il prenait comme du B-roll, des affaires de ça, puis c'est vraiment des affaires qui sont passées dans la tournée. Là, il a pris des talking heads de tout le monde qui était impliqué là-dedans. Puis eux autres, ils disent des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, ils inventent des affaires. Puis là, Sam Shepard, c'est comme Sam Shepard, il a été engagé comme acteur dans le film de Ronaldo et Clara. Puis à un moment donné, tu vois Sam Shepard, tu sais, du footage de Sam Shepard qui était à un show de Bob Dylan. Puis là, il est comme, là, Sam Shepard, il est venu, fait partie de la tournée, il écrivait des paroles, puis tu sais, il chillait avec nous autres. Puis là, c'est comme, c'est pas ça qui est arrivé. Tout le monde sait que c'est pas ça, tu sais. Puis et ça, faut que tu le saches, tu sais. Moi, ça.
Faut que tu sois dans le deep lore de Bob Dylan.
Moi, étant un deep lore de Bob Dylan boy, j'étais comme, ah, ok, ce film-là, c'est de la bullshit. Parce que Bob Dylan, tu sais, fait partie un peu de son esthétique, c'est comme. Je me répète pas. C'est plate de faire la même affaire deux fois. Fait que, tu sais, il n'y a pas une version. C'est pour ça, tu sais, si vous avez. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont allés voir Bob Dylan dans le show, puis qui étaient comme. Qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak, j'ai pas reconnu une seule toune, tu sais, c'était tout croche. C'est que ça l'intéresse pas de faire la même affaire deux fois. Mais ça, c'est calculé, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas ce que j'ai dit qui était comme, oh, vous m'avez inventé des shit, tu sais. C'était vraiment de comment est-ce qu'on peut présenter tout ce footage-là qu'on a de façon nouvelle et aussi faire croire au monde que c'est, tu sais, parce que la nostalgie, ça marche bien gros. Fait que le monde, ils veulent voir de quoi qu'ils connaissent déjà, tu sais. Fait que je pense que souvent dans les documentaires, tu sais, les gens savent qu'ils sont filmés, donc ils agissent de façon différente. Puis ça c'est depuis éternellement longtemps, là, tu sais, mm-hmm. Depuis que les premiers films de depuis le film de Woodstock ou tu sais Isle of Wight, ces affaires-là. Mais je pense que la différence peut-être avec Taylor Swift, c'est tu sais, est quand même jeune, elle a toujours vécu avec le niveau d'accès puis de visibilité qu'on a qu'une vedette a maintenant en 2020. Tu sais, je sais pas quel âge Taylor Swift, 30 ans?
Là, il est sur le point d'avoir 30 ans. En fait, la vidéo est plus qu'un an parce qu'on voit les années qui passent. C'est comme de 26 à 29 en fait, c'est la vidéo.
Fait que tu sais, quand elle a commencé, je sais pas quel âge qu'elle avait.
Elle avait comme 13, 15.
13, c'est ça. Fait que tu sais, puis ça, c'est comme... Il y a toujours eu de l'Internet. Il y a toujours eu des gens qui ont appris... à propos d'elle, pas juste à la radio, tu sais, tout ça. Donc, elle a pas le choix de savoir ça. Fait que quand tu calcules quelque chose, tu sais, ça existe pas, là, un documentaire purement, t'sais, objectif, là, qui démontre la vraie nature de quelqu'un, là. Mais justement, je pense que c'est un changement de temps. C'est qu'il fut un temps où est-ce que tu pouvais te protéger assez, présenter une image et être une marde le reste du temps. Mais là, ça se peut pas tant que ça. C'est pour ça que, tu sais, dans Hollywood des années 50, là, t'sais, tout le monde était gay. Tu sais, comme...
Ouais,
Puis, il fallait qu'ils se cachent. Puis, tu sais, ils habitaient avec leur chum, mais quand ils sortaient dehors, il y avait une femme, puis tout ça, tu sais. Puis là, j'ai l'impression... C'est sûr que là, il y a encore du monde qui sont gays puis qui le disent pas, là. Mais je pense qu'il y en a pas mal moins.
Mm-hmm.
Tu sais, généralement, juste parce que ça a l'air tellement plus difficile à garder comme... puis, tu sais, moins grave, là. T'sais, j'imagine, c'est sûr, il y a du monde... Si Mark Wahlberg était gay, je pense ça mettrait un certain bâton dans les roues de sa carrière.
Ouais, parce que...
Mais, tu sais, comme, mettons, là, on va sortir le hot goss, là.
Ouais.
Moi, je pense que, probablement, parlant de Taylor Swift, Jake Gyllenhaal, probablement gay.
Ouais.
Puis, tu sais, probablement que ça serait pas si grave que ça. Et les choix qu'il fait de sa carrière maintenant, j'ai l'impression, sont en train de nous mener à un coming out.
Ouais, ouais.
Parce que, genre...
Le camp, c'est pas un étranger pour lui. Mm-hmm. La flamboyance, c'est dans ses flèches.
Je veux pas, je veux dire, là, on part sur une autre affaire totalement, mais tu sais, tu peux aussi aimer ça, faire du théâtre musical, puis pas être gay, là.
Ouais, ouais.
Tu sais, puis... Mais aussi, tu sais, je sais pas, là, mettons, moi, je faisais du théâtre au Saguenay quand j'étais un ado, et je ne le disais pas à personne, car je savais que j'allais me faire crisser une volée. Mm-hmm. J'étais le seul gars qui faisait du théâtre dans toute mon affaire de théâtre, là, et je le disais pas à personne. Parce que, genre, tu sais, j'avais peur que le monde dise que ah, t'es une tapette, puis genre, ce serait probablement arrivé. Cependant, beaucoup d'acteurs, de comédiens qui viennent de Saguenay encore maintenant, mm-hmm. beaucoup sont ouvertement gays aussi, tu sais. Fait que c'est comme, ok, ça vient de où, tu sais. Il y a forcément une connaissance, tu sais, puis t'en connais, tu sais. Des gens, je sais pas pour toi, là, mais mettons quand j'étais à l'université ou au cégep, les gens que je connaissais qui étaient en théâtre, le pourcentage de dudes gays là-dedans était beaucoup plus haut que le pourcentage de dudes gays qui font ça maintenant quand ils ont des carrières. Là, fait, c'est il y a forcément quelque chose qui s'enligne pas comme du monde. Là. Mm-hmm. Mais pourquoi on parle de ça déjà?
On parlait, de
ah oui, des images des gens. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais. Et c'est pour ça qu'elle aussi, c'est ça. Je pense que c'est calculé, puis ça l'est pas. Puis ça devient intéressant aussi de voir comment les gens l'ont calculé.
Ouais, ben, c'est en effet, c'est ça là, aussi l'aspect qui m'intéresse du film. C'est que, tu sais, le dernier tiers, c'est advient active politiquement parlant, ce qu'elle a jamais été. Mm-hmm. Tu sais, il y a même une scène où tu vois assassiner avec ses parents, puis particulièrement son père. Puis, tu sais, son père, il dit comme, hey, Bob Hope et Bing Crosby, ils n'ont jamais dit pour qui ils votaient. Puis là, elle est comme, voyons donc!
1937,
de quelle,
là.
De quelle époque tu parles? Puis, tu sais, fait que là, c'est intéressant de voir que, probablement qu'elle a pensé ça, mais que d'être woke, puis de driver ses fans vers s'enregistrer à voter, puis des affaires comme mm-hmm. ça semble faire. C'est accepté et ça fait partie. L'aspect progressif fait maintenant partie du potentiellement du marketing mm-hmm. de l'affaire. Puis tu sais, ça peut être vu comme super cynique, mais en même temps, tu sais, à un moment donné, ça dit dans le documentaire qu'à cause d'elle, il est comme. Ça a drivé du monde à s'enregistrer pour voter comme 50 000. Fait que tu sais, c'est tout de même des bonnes fins ce résultat-là. Ouais, ouais, fait ouais. Que ça, là.
Parce que justement, mais elle vient un peu du monde du country, right?
Fait que ben, c'est une affaire comme... qu'elle adresse aussi que, tu sais, nous autres, ben là, tu sais, elle pop, ça fait longtemps, mais elle se considère encore une musicienne country. Puis, tu sais, elle dit comme, tu sais, nous autres, les musiciens country, ça fait comme partie de la patente qu'on parle pas vraiment de tout ça, mm-hmm. puis qu'on reste à politique dans nos. Du moins, dans nos propos, là, tu sais, on n'en parle pas vraiment, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, elle adresse ça. Fait que, c'est peut-être son peut-être que c'est son dernier level de sa franchise d'être country pour devenir pop, là. Mais en
ouais,
tout cas.
Ouais.
Fait que, j'ai vu ça. Et mm-hmm. c'était bien, c'est sur Netflix, c'est disponible sur Netflix. Puis, tu sais, c'était un bon. Petit 1h40, là, qui s'écoute bien, là. Ben chill un jeudi soir, là. Mais tout de même intéressant aussi. Puis, mais hors de toutes les discussions d'images, moi, la voir travailler sur des chansons, aussi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça.
Ouais, mais c'est tout le temps la partie. Je pense qu'on a parlé de ça, justement, récemment, mais. On aime ça. Moi, j'aime ça voir le monde travailler sur des affaires. Mm-hmm. Un film à propos de gens qui travaillent.
Ouais, ouais.
Peu importe ce que c'est, tu sais. Fait que, tu sais, puis si ça vous intéresse, ça, si vous voulez voir la version la plus expérimentale possible de ça, il y a le film Sympathy for the Devil de Jean-Luc Godard qui est comme 2 heures des Stones qui écrivent la toune Sympathy for the Devil. Avec rien d'autre qui se passe. Fait que genre, c'est godardé, là, tu sais, il y a des shit, là, mais je veux dire, c'est vraiment littéralement 2 heures des Stones qui gossent après une toune. Fait que si, comme moi, vous avez ce fétiche du travail.
Du processus.
Exact.
Donc,
C'est ça, tu as dit que tu avais vu un autre film sur
Netflix. Oui, j'ai aussi vu hier soir, parce que justement, hier, on était voir Sonic ensemble, mais oui. Grâce à ma copine, j'ai redressé mon karma culturel et j'ai été voir un film DC. J'ai été voir Questspan.
Ah oui, ça je l'ai vu, je peux en parler.
Oui, puis regarde, moi, j'ai c'est un film de...
Myriam Vairo.
Oui, de Myriam Vairo, basé sur le livre de Naomi Fontaine, que c'est... ça met en vedette deux actrices d'origine Innu, Yami Grégoire et Sharon Ishpatao Fontaine, mais ça met aussi en vedette Étienne Gallois, qui est dans Avant qu'on explose. C'est drôle parce que Avant qu'on explose se passe dans.
Ben, à Baie-Saint-Paul.
À Baie-Saint-Paul, mais. L'affaire qui m'intéresse, c'est que c'est un film qu'on a beaucoup aimé tous les deux, je pense, avant qu'on explose. Mm-hmm. Mais c'est un film d'ado, mais comparé à ce qu'on connaît pour les films d'ado américains, c'est une version comme, tu sais, que le volume est baissé.
Ouais.
Puis je trouve que Questspan est une autre version du film d'ado. Mm-hmm. C'est juste que là, le volume est baissé davantage. Puis c'est un film d'ado qui se passe justement dans une réserve Innu. Fait que...
Ouais, c'est...
qui est pas loin de Sept-Îles.
Ouais, juste, ben c'est à Sept-Îles, dans le fond. Fait que la ville de Sept-Îles, il y a deux réserves comme de chaque bord. Puis c'est quelque chose, Wetnam. La deuxième partie du nom, c'est Wetnam.
Oui.
U-E-T-N-A-M, en tout cas.
Mais c'est tout... Il y a beaucoup d'affaires, justement, des intrigues, des tropes de films d'ado, mais... En mettant ces intrigues-là et ces personnages-là dans le contexte d'une réserve, je trouve que ça shift toutes ces idées-là et ça les rend comme plus fraîches et intéressantes. Et c'est surtout l'histoire c'est justement de deux amis qui sont pratiquement des sœurs et comment on les rencontre alors qu'elles sont vraiment jeunes. Mm-hmm. Et là, lorsqu'on les retrouve, cinq minutes plus tard, c'est drôle parce qu'au début, moi, je suis comme, OK, c'est un film sur deux petites filles qui ont 6 ans. Puis là, ça fait un coteau à la...
Questspan, OK, c'est ça.
Ça fait un coteau à la 2001 de l'Odyssée de l'espace où t'es dans la préhistoire, puis là, soudainement, t'es avec des satellites. Là, ça, où ce que ces filles-là sont rendues adolescentes, et puis sont sur le point de terminer le secondaire, puis il y a une des amies comme, qui contemple de peut-être aller étudier à Québec. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup l'idée de...
Puis l'autre, elle a un enfant.
Elle a un enfant, et puis elle a décroché de l'école.
Ouais.
Fait que c'est le destin de ces deux filles-là, alors qu'il y en a une qui pense peut-être quitter sa réserve. Et ça, c'est chargé d'émotions en termes, tu sais, de leur fierté, leur culture. Puis en même temps, il y a les affaires de cœur parce que justement, le personnage joué par Sharon, elle se lie d'amitié et même d'amour avec Étienne Gallois qui joue Francis. Fait qu'il y a toutes ces affaires-là qui se passent sur un background, tu sais, qu'on connaît vraiment pas assez.
Mm-hmm.
Puis que ça fait partie de notre culture ici, puis ça fait partie des affaires qui... C'est du monde qui sont au Québec, puis on connaît très peu ce milieu-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est vraiment... C'était très humain et émotionnel, mais ça avait tout de même comme, tu sais, cette corde-là, ce guide-là de teen movie, mais juste, t'sais, plus doux. Pour me guider au travers et j'ai bien bien aimé ça.
C'est beaucoup d'acteurs non professionnels, justement, tu sais, les deux, tout le monde à part Étienne Gallois, puis je pense des pères ou quelque chose, tu sais, un plus vieux dude qui est dans le film à un moment donné, que lui il est comme un... il a déjà joué dans des films. Puis tu sais, c'est sûr que si tu compares ça à quelque chose avec des acteurs professionnels, c'est pas la même texture de jeu, je dirais. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien dans Questspan, tu sais.
Ben, parce que, tu sais, il parle, tu sais, comme, le film est comme à, tu sais, 65% en français, mais, tu sais, des fois, comme, tu sais, la jeune, elle va parler en français, puis sa mère va y parler en Innu, puis il va avoir du back and forth, ben, il parle en français, pareil, mais de la façon qu'il parle français vient avec un accent particulier, vu leur culture, fait que, on dirait que ça égalise justement peut-être les bouts qu'on pourrait trouver moins naturels.
Puis j'aime ça. Je trouve ça quand même le fun à écouter. Du monde qui parle en Innu.
Ouais.
C'est... Mais moi, je trouve quasiment toutes les langues qui sont... C'est pour ça que j'aime ça regarder des films étrangers. Parce que je trouve que toutes les langues sont mieux que le français et l'anglais, les deux langues que je parle. C'est comme quand je vois un enfant qui parle espagnol, je suis comme, cet enfant-là est plus intelligent que moi. Mais tu sais, peut-être qu'il parle juste espagnol, là, mais genre, je suis comme, Chris, ça sonne en esti son affaire.
Ouais, il sait, tu sais quoi qu'il dit, là, cet enfant-là, là.
Fait, tu sais...
Parce que j'ai une seule affaire aussi pour dire, comme tu me partages souvent de la musique qui vient d'ailleurs, vu que t'es un gars de disque qui va chercher dans les trucs,
oui, oui.
La musique plus obscure, underground, que des affaires comme ça. Puis je me rappelle un moment donné, tu m'as envoyé une version japonaise de Poupée de cire, Poupée de son de Franz Gall. Puis c'est une des affaires qui bûche le plus que j'ai entendu dans ma vie.
Ouais.
C'est la même chanson, mais juste qu'elle la chante en japonais, je suis comme, oh man!
Ouais, ben c'est comme là l'affaire que je trouve vraiment. Tu l'écoutais aussi, là, c'est Pop Ochitana. Ça s'appelle Françoise Daguet. C'est une Occitane. En fond, avec l'Occitanie ou le langage occitan, c'est comme dans le sud de la France, un peu en Espagne. Tu sais, c'est un genre de créole français-espagnol là, qui est très limité. Tu sais, il n'y a pas énormément de monde qui parle de ça. Puis. Fait que c'est un disque de folk-ish venant de ces régions-là, des chansons folkloriques, mais c'est un peu comme en français, mais pas vraiment, tu sais. Puis, fait que mettons, il y a une toune, ça s'appelle « C'est alentour de ma maison », mais c'est « Alentour de ma maison ». Puis ça, je trouve ça, j'écoute ça, genre, je suis comme « Fuck yeah, c'est-tu que c'est hot, c'est quasiment la même affaire que la langue que je parle, mais comme « Alentour de ma maison », ah ouais, c'est direct dans mes veines.
Ouais, ouais, ça a comme de la torque.
Ouais, c'est ça.
Mais
allez voir, il est sur YouTube au complet, Daguet, D-A-G-U-E, Pop Ochitana.
Oui, la première tune d'ailleurs.
La première tune, ça fouette en tabarnak.
Je l'ai écouté plein de fois.
C'est genre un drone, c'est une tune instrumentale avec. C'est que c'est un accordéon et un bagpipe, genre.
Oh, ouais,
comme
une
cornemuse. Puis. C'est comme une affaire polyrythmique entre la cornemuse et l'accordéon. Fait que c'est fucking, c'est crissement métal, je trouve, là. Cette tune-là est crissement métal. Puis là, il y a un gros drum, il y a des solos de git. En tout cas, c'est vraiment, ça fouette en criss.
Vas-tu avoir des recommandations de musique de même dans le pod de Raphaël Ouellet? Moi, je pense pas.
Son mec pour Raphaël Ouellet, il haït toute la musique. Il écoute sa sécheuse.
Ouais.
Mais non, Raphaël Ouellet, il est vraiment smart, mais c'est une plaie sur l'Internet.
C'est tout
ce que j'ai à dire.
Il fait son coquin sur Internet, fait que là, on fait semblant d'avoir du beef.
Il est super smart en personne.
Ouais.
Fait que quand on donne toujours des indices à propos du ciné-quiz, je vais vous donner un indice. Des fois, Raphaël Ouellet, il est là.
Des fois, il est là, puis il est gentil. Alors oui, c'est ça, j'ai vraiment aimé Christy Pan, puis tu sais, moi, c'est ma copine qui avait vu le trailer au cinéma moderne, et puis elle a dit « Ah, on devrait aller voir ça », je suis comme « Ok », tu sais, je savais pas vraiment, je savais que c'était vaguement comme lié aux communautés d'ici, mais je savais pas rien d'autre sur ce film-là, puis j'ai été comme, c'était une super belle surprise. Le film commence avec une image vraiment écœurante, que c'est justement les deux filles, quand qui étaient vraiment jeunes, qui vont à genre la chasse aux ménés, puis au début, tu vois juste deux points de lumière, tu vois juste deux cercles dans la noirceur, puis deux points de lumière qui deviennent ces deux filles-là avec leur lumière pour pouvoir chasser des mémés dans la noirceur. Puis c'était une super belle image. Et aussi, tu sais, c'était le monde de la réserve, qui est un monde qu'on ne visite pas, est super bien montré aussi. Bref, j'ai beaucoup aimé ça. Si vous avez la chance de voir ça proche de chez vous, là.
Si vous voulez, vous pouvez aller lire mon interview avec Myriam Véro.
Ah oui.
Que j'ai interviewé pour ce film. Et Myriam Véro a co-réalisé À l'ouest de Pluton. Mm-hmm. T'as-tu déjà vu ça?
Non, jamais vu.
Et tabarnak. Ça, c'est tout qu'un film. Genre, tu sais, quand j'étais au secondaire, je rêvais de faire un film d'ado qui montrait vraiment. Tu sais, tout le monde pense comme ça, là. Je pense que tout le monde à qui tu parles qui travaille en cinéma de proche ou de loin était comme, je voulais faire un film d'ado qui était comme quand ça... Est-ce que ça avait vraiment de l'air quand j'étais un ado, tu sais? Puis là, j'ai vu À l'ouest de Pluton, j'ai fait, bon, ben j'ai plus besoin d'avoir ce rêve. C'est exactement ça, tu sais. C'est vraiment fucking bon, À l'ouest de Pluton, là. C'est vraiment comme un film d'ado crade de région poche, là. Tu sais, genre de party de cave, là, puis de doudelette avec un nickname stupide. C'est vraiment, genre, je pense que toi et moi, on a quand même eu des adolescences différentes, là, mm-hmm. un petit peu. Mais tu vas te reconnaître là-dedans, c'est sûr, là, parce que dès que tu restes pas à Montréal ou à Québec, là, c'est à l'ouest de Pluton. Là. C'est littéralement ça.
Ah,
je recommande à tout le monde, ben, si vous venez de Montréal et vous voulez comprendre ce que c'est de venir de la région, allez regarder à l'ouest de Pluton, pour vrai. C'est ça. Questspan, pour moi, ça m'a comme un peu déçu dans la mesure où c'est juste vraiment fucking bon.
Okay.
Tandis qu'à l'ouest de Pluton, c'est comme si quelqu'un t'allait, c'est comme un peu Uncut Gems. Quelqu'un est allé dans mon cerveau puis il est allé sortir des affaires que je voulais pas que le monde voie à propos de moi-même. Puis là, ils ont fait check. Puis là, je regarde, je fais indéniable. D'accord.
Excellent ça. Toi, Alex, qu'est-ce que tu as vu cette semaine?
Oui, j'ai regardé Horse Girl de Jeff Baena, qui a droppé sur Netflix vendredi. Qui était d'ailleurs aussi une acquisition de Netflix de Sundance. Donc, Jeff Baena, qui est. C'est le chum de Aubrey Plaza.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est pas si grave que ça. Là, mais puis c'est son quatrième film. Donc, c'est film.
Il a fait
avant.
The Little Hours aussi.
Ouais, The Little Hours, que pour
qui
moi.
Qui est dans ma liste que j'ai pas encore
qui
vu.
Qui est son meilleur film, d'après moi, qui est un esti, comme un esti de. Tout qu'une swing. Là, c'est vraiment comme un genre de. C'est whack en esti que t'as essayé ça. C'est encore plus whack. Que ça soit bon. Hein. Comme une comédie religieuse qui se passe en Italie dans les années 1500 avec des nonnes horny qui deviennent des sorcières. Genre. Fait que tu sais, Little Hours, pour moi, c'est vraiment c'est le plus gros swing. T'sais, le reste, c'est un peu des affaires que tu t'attends. Little Hours, c'est comme un film de Pasolini avec des jokes de pète. Là, tu fais « Oh, tabarnak, d'accord ». Fait que pour moi, Horse Girl, que Jeff Baena a écrit avec Alison Brie qui joue dedans, c'est un gros swing, mais c'est plus c'est un whiff, là. Tu sais, ça whiff dans le beurre. Fait que dans le fond, ce que c'est Alison Brie. Jeune fille qui est très awkward. Là. Elle travaille dans un magasin qui vend, tu sais, comme des gogosses de bricolage, là, du tissu puis des billes, là, plus de fois dans même. Mm-hmm. Puis elle a une coloc, puis son coloc a un chum, mais tu sais, elle a pas vraiment d'amis, elle a pas vraiment de vie sociale. Elle est très mal. Elle est correcte dans sa vie, mais tu sais, elle fait pas grand chose. Puis elle est comme obsédée par. Elle avait un cheval avant, puis elle a fallu qu'elle vende son cheval à une petite fille. Puis toutes les fois que la petite fille va chercher le. Va faire, tu sais, des tours de cheval, elle y va. Puis elle le regarde, puis elle donne des conseils, puis tout. Puis, tu sais, personne veut ça. tout le monde trouve ça gossant. Mais tu sais, elle est excentrique, mais tu sais, au début du film, en tout cas, elle est pas comme. Un problème. Mais là, plus le film se développe, plus c'est un problème. Dans le fond, elle commence à avoir comme des hallucinations, à rêver à des choses, puis elle commence à être convaincue, dans le fond, que elle est la réincarnation ou le clone de sa grand-mère. Tu sais, il se passe de quoi avec ça, là. Tu sais, que ça, c'est en train comme de ruiner sa vie, parce que quelqu'un est en train de la contrôler. Peut-être des aliens, peut-être qu'elle a du clonage, peut-être des choses comme ça. Puis... fait que, ça commence un peu comme une comédie quirky malaisante là, elle va sur une date elle se fait comme un semi-chum qui est John Reynolds qui joue dans Search Party là, je sais pas si
je sais c'est quoi mais je l'ai pas écouté encore
un bon show puis tu sais ça commence à battre tripper à la lucine tu sais dans le fond elle est dans un état manique là, puis je trouve que dans le fond c'est ça revient souvent au cinéma, ça, tu sais, comme la manie, les hallucinations, ces choses-là. Puis c'est quand même rough à mettre en scène, je pense. Parce que, ça, je l'ai écrit sur mon Letterboxd, je vais juste réitérer ce que j'ai écrit sur Letterboxd. Il y a comme trois façons de parler d'un épisode manique au cinéma. C'est soit tu le fais de la perspective de la personne qui vit l'épisode manique, c'est-à-dire... montre un film dans lequel quelqu'un soudainement devient, tu sais, un dieu, un tout-puissant dieu ou quelque chose. Il se passe des shit fucké, mais eux le pas juste eux le croient. On est supposé de croire que ça arrive pour vrai. T'sais, on le voit à travers leurs yeux à eux autres. Le problème avec ça, je pense, c'est que ça devient très imagé et donc les réalisateurs tombent un peu en amour avec cette idée, tu sais, les images de ça puis tout ça. Puis ça devient, tu sais, pour utiliser un terme trop utilisé, lynchéen.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est comme... On n'a plus besoin de ça. David Lynch a comme pas mal couvert tout ce qu'il y avait à couvrir dans le Lynchien.
C'est son nom. Fait
que... C'est ça. L'autre alternative, c'est que tu le vois de l'extérieur. Fait que, ça serait, mettons, un film sur un gars que sa blonde est dans un épisode manique. Fait que tu vois quelqu'un qui fait des affaires complètement, tu sais, qui sortent de nulle part, qui sont très, très... qui sont pas fondés dans la réalité. Le problème avec ça, c'est que ça devient automatiquement tragique. Ça devient, tu sais, ah, ben regarde comment ça n'a pas de sens. T'sais, ma vie, elle a été... Quelqu'un qui imagine des affaires, puis là, ma vie est changée pour ça. Ça devient un peu comme une affaire de pitié.
Ouais.
Tu peux faire aussi le troisième qui est comme alterné entre les deux. Mais à ce moment-là, ça, on vient à se questionner, ben, c'est quoi la perspective? De quoi qu'on parle? T'sais, c'est quoi le message du film? Puis on est juste en train de dire, il y a du monde qui sont pas bien dans leur tête, puis waouh, esti. Parce qu'il y a beaucoup de films sur la maladie mentale que c'est ça, honnêtement. C'est ouais. Genre, check comment le monde sont pas bien, check c'est quoi. Fait que, tu sais, il y a un... Là, j'ai perdu le nom du film, mais il y a un documentaire qui est sorti l'année passée, québécois, sur les gens qui faisaient... qui étaient bipolaires, puis sur leurs épisodes de manie. Puis ça, c'est comme la meilleure affaire que j'ai jamais vue là-dessus. Là. Puis ça... Parce que quelqu'un l'expliquait avec, mettons, le recul et la compréhension de quelqu'un qui l'a vécu, mais qui le voit de l'extérieur. Mm. Mais ça, il y a quasiment juste un documentaire qui peut permettre ce genre d'affaire-là. Fait que quand tu regardes Horse Girl, qui est un film qui commence assez normal, puis qui devient de plus en plus, tu sais, quote-unquote, pété, visuellement, puis il se passe des affaires weird, plus, moi, j'étais comme... On dirait moins que vous voulez nous faire vivre ça et plus que vous voulez nous montrer que vous savez c'est quoi. Puis ce qui est quand même, la ligne est mince là, entre ces deux affaires-là, mais je trouve que ça fonctionne pas. T'sais. Puis l'effort est bon, ça, c'est bien fait, c'est des bonnes performances, puis tout, mais c'est pas. Tu arrives à la fin, puis tu te dis, ben qu'est-ce que tu essayais de me dire avec ça? T'sais? Puis je dois dire que je ne sais pas. Je sais pas. Le film est un peu vide de sens pour moi. Je joue beaucoup sur les images, les hallucinations, ces affaires-là. Puis c'est un peu facile. Je sais pas. Ça pèle dans le beurre un peu. Ça roule dans le beurre. Puis de façon quand même. Ça s'écoute très bien. Tu sais, j'étais pas comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Tu sais, maudit film. Mais à la fin, j'étais comme, eh. J'ai pas l'impression que ce film-là m'a réellement passé quelconque message ou quelconque. qui avait un point. Là, tu sais. Ça me semblait beaucoup comme. J'ai parlé à plusieurs personnes qui ont fait des crises maniques, fait que. J'ai écrit.
Des crises maniaco-dépressives, fait que là, c'est ça, là, ouais.
Fait que, tu sais, je me sais plus le nom. Sur le Patreon, je vais aller le mettre, le nom du documentaire. Là, le réalisateur s'appelle Mathieu. Il est très gentil, mais c'est à propos de sa crise à lui, genre. Fait que, tu sais, c'est un film avec énormément d'honnêteté. C'est vraiment meilleur que Horse Girl. Puis, tu sais, je dis pas après ça, peut-être qu'Alison Brie et Jeff Bennett, ils ont ce problème-là aussi. Mais ça tombe un peu dans le carcan de la première affaire que j'ai dit, c'est-à-dire ça commence à tomber énormément sur les images et les qualités plastiques de la maladie mentale, ce qui devient un peu répétitif et somme toute un peu, sans être, mettons, insultant pour les gens qui auraient cette maladie-là, je pense pas que ça en dit long sur quoi que ce soit.
Ouais, puis ça a l'air potentiellement aussi d'un genre de trip d'acteur de faire ça.
Ouais. Puis tu sais, puis elle est super bonne. Là,
ouais, Alison Brie est excellente. Là.
elle devient de plus en plus intéressante, je trouve, avec le temps, tu sais, comme...
Ben, moi, je l'aime beaucoup parce que, tu sais, elle, à la télévision, a été comme dans deux shows classiques en même temps. Mm-hmm. Puis ces deux rôles-là sont, à mon avis, classiques. Qui étaient... Annie dans Community puis Julie Campbell dans Mad Men. Puis elle jouait deux personnes différentes puis qui étaient à la fois des cartoons un peu, mais des vraies personnes en même temps. Ou une affaire qu'elle faisait bien, c'est justement qu'elle avait l'air d'un cartoon au début, puis là, plus que tu avançais, tu voyais la vraie personne en dessous. Et en plus, tu sais, quand elle a commencé à faire glow, elle s'est transformée physiquement parce que tu sais, elle s'est mise à être comme ripped. Puis soudainement, elle avait plus sa face chérubaine de princesse de Disney. Là, elle avait l'air plus d'une femme adulte, puis ça l'a comme un peu changé ce qu'elle peut faire aussi.
Ben, elle a l'air un peu plus, tu sais, comme hantée, hein, je te dirais. Genre, ouais, ses traits, ils ont comme tiré, mais tu sais, pas qu'elle est plus vieille, évidemment, mais tu sais, c'est plus qu'elle a comme, tu sais, elle a des énormes yeux, elle a toujours eu des énormes yeux, puis là, ça tire vraiment, genre, là-dessus, là, tu sais, c'est rendu les yeux qui sont comme le comme un bonhomme d'animé, genre torturé.
Ouais, ouais.
Elle aurait pu jouer dans Alita sans le CGI.
Ouais, sans faire le CGI. Mais en tout cas, aussi, je trouve qu'elle a vraiment des choix intéressants parce qu'il me semble qu'elle aurait été dans la machine de Blockbuster quelque part.
Ouais, ouais.
Puis elle a probablement dit... Peut-être que sa version d'être dans la machine de Blockbuster, c'était à Community puis à Mad Men en même temps.
Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, tu l'as-tu déjà entendu en entrevue, genre?
Ouais, je pense une couple de fois, parce que pas récemment.
En entrevue, elle est très... dure à décrire. Tu sais, elle est très comme matter of fact, là. Tu sais, elle est très... cordé, là, pour dire. Puis j'étais comme, OK, je comprends un peu, tu sais. Elle est plus sérieuse, mettons, que ce qu'elle s'est retrouvée à faire. Et donc, je pense que là, ça commence. Là, maintenant qu'elle a un peu plus de contrôle sur les affaires qu'elle peut faire, ça se voit. Là,
ouais, elle a fait des films de Willow. Avant qu'on passe au film de Jess Fowler, son opus de 2020. Sonic the Hedgehog, on aimerait se remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé des braves et bons gens comme Nick Cooper, Yves Chouin, Audrey Bouchard, Maude Blanchette, Valérie Laventure, Mondou Paternel, Rémi Belzile, Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, J.S. Bruno, Eileen McCall, Éric Roy, qui est un des noms que j'aime vraiment dire, Éric Roy, Samuel Mars, Véronique Desnoyers, Martin Brisebois, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre, J.D., Chloé Ricard, Alexandre Rondeau-Champagne et Jean Côté. On vous remercie de nous encourager sur Patreon. On parle plus longtemps de d'autres affaires que le film.
Ouais, ça va être encore ça, d'après moi.
Ça va être encore ça, mais regarde, on essaie de prendre notre shape à travers cette nouvelle structure.
C'est vrai.
Et
tu sais, si on avait tapé le Sonic hier, là, après l'avoir vu, là, on aurait juste parlé de Sonic. J'aurais pas vu Horse Girl. J'aurais pas pu en parler.
Moi, j'avais vu Kwesi Pan. Écoute, là, on va avec un film qui a eu un parcours particulier de par Internet.
Avant ça, Yannick, je pense qu'avant même de parler du film, moi, je veux parler... Étais-tu une famille Nintendo ou Sega à la maison?
Moi, c'était... j'ai grandi dans une famille Nintendo.
Moi aussi.
Fait que moi, c'est... NOA, Nintendo of America or Die, Till I Die, jusque dans la tombe. Moi, j'étais un Mario Boy.
Donkey Kong.
Donkey Kong, c'est mon dog. Les Nintendogs sont mes dogs. Je visite le monde d'Hyrule quand je peux. Balloon Fight, toutes ces affaires-là.
Balloon Fight.
Ouais. Moi, j'étais un gars de Nintendo. Puis, j'ai des amis qui avaient des Genesis. Et puis, j'ai joué au Genesis quand j'étais jeune. Et je me rappelle à l'époque que quand c'est sorti, ben, t'sais, c'était 16 bits, c'était avant Nintendo. Fait que là, c'était vraiment impressionnant à cause de ça. Mais, il y a toujours eu une vague de. Genesis, c'est comme le. C'est une affaire, c'est la console des riches.
Ouais.
C'était un jeune riche avait un Genesis, puis il se sentait mieux que toi. Puis Sonic, avec sa petite attitude de bad boy qui se pensait plus cool que Mario, qui était supposé être poche, moi, j'avais pas ça.
Moi, j'avais, je pense, mon ami, le premier ami que ses parents se sont séparés, avait les deux.
Un cas de divorce à l'époque, c'est ça qui arrivait. Tu te ramassais lui... une double console.
Lui, maintenant, là, il va bien là, dans sa vie, mais lui, quand il était jeune, il était gâté, pourri là, à cause du divorce. Là. Il avait toutes les hosties d'affaires possibles. Là, on aimait ça aller chez eux parce qu'il y avait tout le temps des gogosses, des jeux vidéo, des patentes. Je pense pas que ça l'a vraiment brisé, mais c'est ça. Moi, Sega, je connais juste ça d'être allé chez le monde.
Mm-hmm.
Tu sais, nous autres, on n'avait pas ça. Moi, j'avais pas ça chez nous. Mes voisins, tu sais, que je chillais tout le temps avec mes voisins, avaient aussi Nintendo. Fait qu'on était, on n'a jamais... Tu sais, je me souviens d'avoir vu Sonic, puis je trouvais que Sonic, ça allait vite. Ça avait l'air plate parce que ça allait vite. Tu sais, tu pouvais pas vraiment vivre et...
promener à ton rythme,
c'est ça,
au Mushroom Kingdom.
Puis là, sur une affaire, pis là, ça, tu devenais une boule, puis tu soignais à travers la moitié du tableau d'une shot, puis je trouvais ça tannant.
Ouais, ben c'est comme ça que le jeu était vendu, tu sais, c'était comme, tu sais, Mario, il va pas vite, mais check, comme, le Genesis qui était vendu avec un système qui s'appelait du Blast Processing,
ooh,
qui était juste une façon de raconter à quel point que ça bûchait, que leur graphique était plus hot.
Mm-hmm.
C'est ça, vraiment vendu sur... voici un coquin, Sonic c'est un coquin puis il va vite puis ses jeux ils vont vite, toutes ces affaires là c'est inarrêtable.
Mm-hmm.
Puis ça c'est important, chose de le mentionner, parce que ça fait partie de comme de l'ADN de Sonic, tu sais, c'est un personnage qui existe depuis comme 1991, tu sais, c'est le premier jeu de Sonic qui est arrivé en 91 au Sega Genesis, puis c'est à l'époque de création de ces mascottes-là, de ces franchises-là, pour compétitionner à Mario. Il y en a eu plein dans le temps. Il y avait eu Bunk au TurboGrafx-16. Il y en a eu plein. Mais il y a juste Sonic qui a survécu. Mm-hmm. Parce que, genre, ces deux premiers jeux étaient vraiment colorés, bons. Il y avait de la bonne musique. Puis, d'ailleurs, tu sais, il y a des légendes semi-urbaines qui sont en fait vraies, que Michael Jackson a écrit de la musique pour Sonic 2.
Ah ouais?
Ouais, tu peux chercher ça sur Internet.
Moi, je connais juste des musiciens japonais qui ont fait de la musique de jeux vidéo.
Ah, ben voilà. Fait que Sonic, malgré qu'il y a eu deux bons jeux, par la suite, son parcours n'a comme pas été si bon que dans les jeux vidéo, mais mm-hmm. il a toujours resté aimé à cause de son attitude.
Il y avait un cartoon de Sonic, ça se peut.
Il y a eu une couple de cartoons.
Ouais.
Archie Comics a fait un comic de Sonic qui est sorti en 93, qui a duré pendant 20 ans. Un comic avec tout un mini-monde de personnages de Sonic. Puis aussi, son design est vraiment cool et iconique. Fait que je pense que quand tu es un personnage que des enfants peuvent dessiner facilement, mm-hmm. t'as comme un pied dans la porte pour être dans leur tête pour toujours.
Mais tu sais, Sonic aussi a toujours été comme une figure de proue des weirdos de l'Internet, là.
Oui, il y a toujours eu des memes puis des affaires weird de Sonic.
Des Sonic enceinte puis Sonic avec un gros bat nervuré puis des affaires. Ça a toujours existé. T'sais.
Oui, des Sonic qui pleurent le 11 septembre.
Ouais,
des Sonic qui disent des choses racistes.
Ouais, exact.
Il y avait même un jeu sur Internet. Essayez-le vous-même sur Google. C'est écrit ton prénom avec The Hedgehog puis tu vas trouver quelqu'un qui a dessiné un Sonic bizarre, que c'est son nom lui aussi, puis comme George de Hedgehog.
Y a-tu un Yannick de Hedgehog?
Me semble, j'avais checké, puis c'était moins... fait que là, on arrive à maintenant, puis toutes ces affaires-là, c'est important, parce que je pense que c'est une des raisons, en plus des jeux, pourquoi Sonic perdure dans l'imaginaire. Et à notre époque, que Hollywood fait plus que jamais des films basés sur des propriétés intellectuelles, c'est tout de même surprenant à quel point... qu'il n'y en a pas tant que ça de jeux vidéo, mais ça se casse la gueule souvent en question de faire des jeux basés sur des films basés sur des jeux vidéo. Le meilleur résultat, c'est habituellement, c'est des beaux films ou des gros films qui ont des mécaniques de jeux vidéo. Comme mm-hmm. tu l'as dit, beaucoup de monde l'ont dit, 1917, on mm-hmm. dirait un jeu vidéo, mais c'est pas basé sur un jeu.
Mais tu sais, Tomb Raider, mettons, le Tomb Raider avec Alicia Vikander,
ouais.
Que j'ai trouvé poche, là. À la fin, elle pèse sur des grosses gemmes de couleurs, là, elle fait genre des puzzles,
ouais.
Comme dans un jeu vidéo. Puis là, j'étais comme, ok, au moins je respecte le hustle de comme vraiment commencer à être dans l'absurde, là, tu sais, des mm-hmm. affaires de, elle pousse des roches puis elle fait des puzzles de Tomb Raider. Mais ça, c'est le plus près que j'ai vu un film de jeu vidéo, mettons, accepter le fait que c'est un jeu, ça vient d'un jeu vidéo.
Mm-hmm.
Parce que souvent, c'est ça. Y a plusieurs embûches qui s'offrent à des jeux vidéo. Une étant, il n'y a pas assez d'histoire.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut inventer des shit qui n'ont pas de sens pour fitter avec, tu sais. Mettons, ce que t'as au pire, c'est un bonhomme, puis un contexte, puis that's it. Puis l'autre, tu sais, il y a trop d'histoire. Puis la majorité de cette histoire-là vient de des affaires qui sont déjà au cinéma depuis 100 ans. Donc, ça fait une affaire incompréhensible. C'est comme Assassin's Creed, c'est ça. Là. C'est comme incompréhensible. Plein d'affaires qui viennent déjà du cinéma.
Ouais,
fait que c'est vraiment whack. Puis c'est plate, puis je comprends rien. Puis.
Tu sais, juste pour Tomb Raider. Si tu veux faire un Tomb Raider, il faut que ce soit au moins aussi bon qu'Indiana Jones pour que ça reste dans la place. Ouais, ça, c'est
mais là, le deuxième Tomb Raider va être réalisé par Ben Wheatley, ce qui est vraiment mystifiant. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver.
Bon, ça doit être parce que Lara Croft est un personnage britannique. Fait qu'il y a peut-être une fierté nationale comme
Je sais bien pas, Chris. Je sais bien pas. J'ai aucune idée.
Il pose son thé sur la table, dis-moi le faire. Fait que là, mais justement, il y a plein d'embûches pour faire des jeux vidéo, des films de jeux vidéo. Et puis là, Sonic est adapté à un nouveau film qui utilise un format qu'on connaît, qu'on a même parlé récemment dans l'épisode, alors j'ai louangé Paddington.
Ouais.
C'est qui est un personnage, un animal, un personnage CGI qui existe dans un monde humain, puis qui chill avec des humains, puis qui a une aventure face à ça. Je pense que l'affaire principale qu'il faut dire au sujet du film là, c'est que le parcours du film, c'est qu'il y a eu un trailer qui est sorti genre l'été dernier ou le printemps dernier.
Le film était supposé sortir genre en octobre ou novembre 2019.
Ouais, c'est ça, par Universal. Et le design de Sonic qui a montré, encore là, Sonic qui est un design iconique de jeux vidéo, ils ont essayé de créer un genre de Sonic réaliste qui était absolument dégueulasse. Tout l'Internet.
Il était terrifiant.
Il était terrifiant. Il y avait des petites dents humaines dans sa bouche. Il y avait des jambes un peu musclées pour expliquer qu'il courait, ce qui était absolument vomissant.
Mais il était comme plus long, plus fait sur le long.
Ouais.
T'sais, sans dire qu'il était comme plus cut, là. T'sais, il y avait comme plus des longs bras et des longues jambes comme de coureur. Là,
ouais, comme un athlète. Là,
ouais, c'est ça.
Mais de petites tailles puis aussi un hérisson bleu réaliste. Et puis, quand c'est sorti, tout l'Internet a vomi. Moi, y compris, je suis comme, voyons donc, tabarnak, c'est quoi ça? C'est comme un des signes de l'apocalypse. Quelque chose chié par Satan. Et puis, quand c'est arrivé... ce qui est une affaire qui est comme rarement arrivée. Puis là, que certains disent que c'est un... Les producteurs disent comme, ah, OK, ben on va refaire Sonic. On va le retravailler. Puis, j'ai même vu du monde sur Internet essayer comme d'ostiner. Hey, les hosties nerds que ça chiale. ils respectent pas la
créativité.
La créativité des filmmakers. Comme, regarde, là, c'est un film de Sonic. Là, je pense pas qu'il y ait tant d'honnêteté dans le processus et de cœur là-dedans. Fait que, pour en venir au film en tant que tel, c'est ça qui est vraiment important de parler du look puis du relookage de Sonic qu'ils ont fait. Parce que, à mon avis, le redesign de Sonic a 100% sauver ce qu'il y avait à sauver de ce film-là.
Ouais, je pense que... Ben, ouais.
Parce que, en écoutant le film, qui est à mon plus généreux ordinaire,
ouais.
Si c'était le Sonic des trailers originaux, ça aurait... ma face aurait été crispée.
Je me serais gonné.
Ça aurait été troublant, inquiétant, dégueulasse tout le long.
Parce qu'il faut noter, je pense, moi la chose qui m'a frappé le plus avec le Sonic qui existe maintenant, c'est que c'est vraiment plus weird comme film que ce que je pensais. C'est, tu sais, je veux dire, c'est convenu en crise, ça, dans le fond, c'est E.T., là, mais avec Sonic, là, genre. Puis,
un genre de E.T., oui.
À la fin, c'est Back to the Future. Mais, tu sais, Le ton, le sens de l'humour et l'approche du matériel est tellement tout croche, ça vient de toutes les directions possibles, ce qui fait que le film est quand même weird, tu sais. Puis plusieurs fois dans le film, je me suis tourné, je disais à Yannick, à qui s'adresse ce film? Tu sais, c'est comme... Encore là, je suis pas sûr, je l'ai vu.
Parce que c'est un film pour enfants, mais il y a aussi une partie de ce film-là, c'est pour toi puis moi qui avait des amis qui avaient un Genesis qui a joué à Sonic quand t'étais jeune. Fait que c'est tout de même pour du monde plus vieux, c'est tout de même pour des parents qui ont joué à Sonic qui amènent leur kid. Il y a des j'ai vu mes neveux cet après-midi, puis quand j'ai mentionné que j'avais vu le film de Sonic, ils étaient vraiment excités parce que les autres ils ont vu des cartoons de Sonic, ils ont joué avec Sonic dans Smash Brothers, le jeu crossover Nintendo.
Ah ouais. Sonic est là-dedans.
Il est là-dedans. Hey, quand ça a été annoncé que Sonic était dans un jeu fait par Nintendo là, il est apparu pour la première fois dans un jeu de Mario et Sonic aux Olympiques, mais tu sais, comme tout le monde tout le monde s'en calisse un peu de ça. Quand Sonic a été annoncé pour être dans Smash Brothers, là, moi j'ai...
Mais dans lequel, pas au 64?
Non, c'est celui-là au Wii, à Nintendo Wii.
Ok, parce que moi j'ai joué à Smash sur le Wii, je pense, autrefois. Avec la petite poignée, là. Une petite poignée que tu te mets un harnais sur le poignet pour pas que ça, tu le tires dans le mur. Là.
Ouais, exactement.
J'ai joué à ça l'autre fois. Tu voyais comment je suis gamer.
Mais
Sonic, Sonic là-dedans.
Sonic, c'est comme un. Dans le story mode, c'est le dernier personnage que tu unlocks. C'est lui qui arrive à la fin, qui arrive en solo style pour péter des méchants. Puis t'es comme,
je vois.
Sonic est là, c'est-tu. fait que bref, mes neveux étaient hype de voir Sonic, puis il avait vu les annonces comme plusieurs fois comme ils ont écouté sur YouTube. Fait que tu sais, clairement, il y a tout de même un public qui veut voir Sonic, mais en effet, ce film-là, il y a le genre de E.T. de pacotille qui est à travers ça. T'as des jokey jokes t'as des blagues qui sont devenues des genres de sitcom. À ce temps, je trouve les films d'Hollywood, surtout les films pour enfants, mais beaucoup de films d'Hollywood, l'humour qui est dedans, c'est de l'humour de sitcom d'il y a 10 ans.
Ben, je te dirais, je pense, moi, la raison pour ça. Parce que moi, ce que j'ai, tu sais, comment j'ai interprété ça, c'est comme des jokes d'annonce de Mountain Dew de quand j'avais 15 ans. Puis, tu sais, mettons à Fox, tu sais, dans le temps qu'il y avait genre au début de Family Guy, puis tout ça, puis tu sais, puis. Quand il y avait le petit chien de Taco Bell, de genre, t'sais, ce genre de niveau de joke-là. Puis je me suis dit, ben, tu sais, le monde qui écrive des films maintenant, surtout des films pour enfants, c'est du monde qui vont chercher d'habitude dans les comedy community, qui ont à peu près mon âge, tu sais, notre âge, et qui donc avaient conséquemment mon âge quand ils étaient jeunes. Donc, ils ont vécu dans le même background culturel. Et donc, eux se rappellent qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune. Puis une des affaires que moi, je me rends compte, c'est quand je dis... Quand je pense à des affaires quand j'étais jeune, je suis off. Tu sais, je disais ça, je regardais ça quand j'avais 15 ans. Puis là, si tu fais les maths, j'avais 11 ans. Ou le contraire, tu sais. Des fois, je suis comme, telle affaire sortie quand j'étais au secondaire. Non, j'étais à la première année d'université, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est comme... C'est du monde qui n'ont pas d'enfants, qui écrivent des films pour les enfants, donc en pensant à quand eux, ils étaient enfants, puis qu'ils sont off de 4 ans. Là, t'sais, genre... Parce que le premier, là, ils sont pas crédités, mais le premier draft de Sonic, c'était Evan Susser et Van Robichaud, je les connais à cause du podcast Doughboys. Puis que là, d'ailleurs, l'épisode de Brooklyn Nine-Nine qui est sorti le deuxième, il y a eu les deux, tu sais, il y a eu la première de la saison de Brooklyn Nine-Nine, puis qui était deux épisodes l'un après l'autre, puis le deuxième était écrit par eux autres. Tu sais, puis là, il a clairement pas assez de stock qui est resté pour qu'eux autres, leur nom reste, mais tu sais, eux autres, comme sachant un peu comment ils sont, tu sais, qui sont des gens qui vont souvent à Doughboys, je suis comme, OK, je comprends pourquoi le film est comme il est, tu sais. C'est un film de faire un film, c'est quelqu'un, un dude avec une barbe, tu sais, qui porte des chandails extra larges, qui se rappelle qu'est-ce que c'était sa vie quand il avait 13 ans. Puis c'est ce film-là qui est écrit, tu sais. Puis je peux comprendre, je pense, honnêtement, si je devais faire un film de Sonic, j'étais payé pour ça, ça ressemblerait à ça, j'en serais pas fier. Mais ça ressemblerait à ça, tu sais.
Ouais, ouais.
Le contrat de Sonic que tu me donnes à moi, ça ressemblerait à ça, je pense.
Ben oui, moi aussi. Moi, c'est une affaire que j'aimerais ça. Il y a une couple d'années, j'ai lu un livre qui s'appelle « Writing Movies for Fun and Profit, How We Made $1 billion at the Box Office ».
Oui, je l'ai lu aussi, ça.
Oui, ouais. Par
Tom Lennon et
Robert Ben Garan. Puis tu sais, ils parlent de comment ils ont écrit plein de films de marde, puis plein de films de marde pour toute la famille. puis
ouais, genre le taxi, le remake de taxi, puis le Love Bug, là,
ouais, Herbie Fully Loaded. Ouais, c'est ça. Puis quand j'écoutais le film, ça me faisait penser à ce que j'ai lu dans ce livre-là, qui parle que faut comme que tu partes d'une prémisse un peu sincère. C'est comme t'as Sonic qui est chassé de sa dimension, qui arrive sur Terre quand il est bébé, puis là il vit sur Terre pendant des années dans une ville qui s'appelle Green Hills, qui est comme le nom du premier level dans Sonic.
Qui a fait rire un dude aux éclats derrière nous.
Ouais, il y a un gars derrière nous qui a fucking lolé tout le film. Et quand les lumières sont allumées, j'ai vu qu'il y avait une belle calotte de Sonic avec un t-shirt de Sonic. Fait que lui, il était... C'était le public pour ce film-là.
Ouais,
là.
C'est ça.
Fait que bref, tu sais, Sonic est comme un enfant sauvage dans le bois qui... aimerait ça faire partie de la famille du policier qui run la ville, qui est joué par James Marsden, qui est un fucking prince. Tu vois que okay, c'est un enfant perdu qui veut faire partie d'une famille, puis là il court vite, puis il est un peu Bugs Bunny-esque, c'est un petit stinker, c'est un petit coquin.
Moi je le trouvais, je l'ai dit pendant le film, il me fait penser à Thomas Levac.
Ouais.
Puis, tu sais, dans le sens que si, mettons, Thomas Levac, c'est Spirou, ben Sonic, c'est le petit Thomas Levac. Tu sais, comme, c'est pas tant relié, là, mettons, mais...
Il y a des traits.
Parce qu'il fait tout le temps « Wow! » Mais là, j'étais comme « Ouais, comme Thomas Levac! » Mais tu sais, fait que je sais pas, tu sais... Ouais, c'est ça. La personnalité est pas tant définie de Sonic Beyond sa levacité.
Ouais, c'est ça. Puis sa levacité. Puis, ben, tu sais, Sonic aussi, il arrête pas de dire. Il a grandi sur Terre, fait qu'il connaît la pop culture, mais il connaît pas comment la société fonctionne. Ouais. Un peu comme
ça. Il regarde Speed là, par la fenêtre.
Par la fenêtre, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais.
Comment il entend le dialogue? Comment il sait c'est quoi le dialogue de Speed? Je sais pas. Il est de l'autre bord de la fenêtre.
En tout cas, tu sais, faut pas trop y penser, mais bref, il est un petit Deadpool. Mais comme on a parlé aussi dans Birds of Prey, puis là dans ce film-là, on dirait que tous les personnages qui font du petit Deadpool sont moins gossants que Deadpool en tant que tel. C'est ça que j'ai envie de découvrir. Je pensais pas que j'avais que j'étais gossé par Ryan Reynolds. Je pensais que je l'aimais, mais finalement, je pense que je suis gossé par lui. Parce que je préfère Harley Quinn puis Sonic à Deadpool. Il est un nasty de crew pareil. Là.
Ouais, ben avec l'histoire de Sonic, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il habite genre dans un monde quelconque où ce qu'il est
qui
pas...
ressemble au premier level de Sonic.
Ouais, puis il est pas... puis sa mère, c'est un hibou.
Ouais, un genre de hibou qui s'occupe de lui. Que j'ai fait une recherche voir si c'est un personnage soit des comics ou de mythologie des jeux. On dirait pas, en tout cas, vite de même, là, quand tu cherches Sonic Owl, tu trouves pas grand-chose.
Fait que Sonic est pas supposé courir vite, mais il fait pareil. Fait que là, il y a des méchants qui veulent le pogner. Fait que là, elle a un sac avec des rings dedans.
Ouais.
Puis là, elle dit, quand tu garoches ce ring-là, t'as juste besoin de penser à quelque chose, tu vas pouvoir te téléporter là-bas. Fait que téléporte-toi dans un autre monde pour te protéger de ces méchants-là. Il se téléporte justement à White Hills, Michigan, ou whatever que c'est. Puis, c'est ça, il passe comme 10 ans à juste espionner le monde, à être un petit stinker qui regarde, qui participe pas vraiment à la vie du village, mais qui est au courant de ce qui se passe.
Oui.
D'ailleurs, un vieux dude, Crazy Charlie, qui l'a déjà vu, qui dit que c'est le Blue Devil, mais qu'il l'a jamais pogné.
Tu sais, il montre un dessin de lui, puis ça, c'est un dessin fameux utilisé dans un meme de Sonic.
Exact. Pis, Sonic. Sonic Hedgehog.
Ouais, c'est ça. Mais... Fait qu'il y a beaucoup de petits callbacks à des memes, puis à des affaires des jeux comme ça.
Puis là, Sonic est triste de tout être tout seul. Fait que là, il rage dans un terrain de baseball, puis il fait comme un power surge, tu sais, il jette plein d'électricité, ce qui fait perdre le courant partout dans la ville. Fait que là, le gouvernement sont comme, oh, il y a eu un acte terroriste dans cette ville-là, il faut envoyer notre meilleure personne là-dessus. Puis là, les doutes du gouvernement sont comme, c'est sûr que tu veux pas dire Dr. Robotnik, puis le gars, il est comme, absolument Dr. Robotnik, puis là... Tout le monde dit « C'est impossible, c'est un crackpot! » Puis là, il dit « Non, il y a juste le Dr. Robotnik qui peut nous aider. » Fait que là, enter Jim Carrey avec une moustache de Staline qui fait... OK, tu sais...
Ouais, comment t'as trouvé le Jim Carrey dans le film?
Je pense à ça, parce que tu sais, je pense qu'il y a des rôles comme ça, tous les rôles de méchants dans une affaire de bébite de même, là, ça s'est fait offrir à Jim Carrey. Ça doit, depuis 1994, tous les méchants de films d'enfants, ils passent par Jim Carrey.
Ils ont dû cogner à sa porte souvent, ouais.
Puis,
ouais,
tu sais, Jim Carrey, il travaille pas tant que ça maintenant. Tu sais, il fait pas 3-4 films par année de merde. Mais là, il a dit oui à ça. Puis ça, je trouve ça mystifiant. Mais quand tu le vois aller, tu fais « OK, je comprends pourquoi il a voulu faire ça. » Ça détonne en Christ. L'humour et le ton, l'énergie qui tourne autour du personnage de Dr. Robotnik est tout de même très différente de ce qui se passe quand c'est pas lui à l'écran.
Ouais, ouais. Tu sais, James Marsden, la façon qu'il joue... Tu sais, James Marsden qui a joué dans Superman Returns, mais qui, pour moi, a de l'air de Superman.
Ouais.
Puis... il est là avec une sincérité idéale américaine de Middle America, parfait, puis il est comme, il est shérif, il a sa blonde, puis tout ça, puis il joue tout ça vraiment vrai, tu sais, vrai pour un monde cartoon.
Ouais, un peu élevé, là, quand un peu même, tu sais, mais... il a pas l'air d'avoir beaucoup d'intériorité dans son personnage.
Mais c'est ça, il est comme un il est un bon icône, mettons. Mm-hmm. Pis là, t'as Jim Carrey qui est comme « Wouah! »
Qui est comme un esti de cartoon bizarre, mais aussi un petit peu plus dark pis snarky, mettons, que le reste du film. Tu sais, même pour Sonic, qui fait des cracks de whatever, de speed, là. Pis c'est ça. Robotnik, il est comme... Il décide que lui, il est obsédé. C'est un super génie. Il veut comprendre pourquoi tout chie. Là, vu que personne ne sait que Sonic existe, ben, Sonic se lie d'amitié avec le shérif de la ville. Tout le monde pense que c'est le shérif qui a fait l'acte terroriste. Fait qu'eux autres, ils sont on the run. Il faut qu'ils aillent à San Francisco. Ah, okay. Sonic...
Ses rings. Il essaie de sauver, mais il perd ses rings. Puis il perd
tombe,
à San Francisco.
Il tombe sur le top du Century Building à San Francisco parce que James Marsden porte un T-shirt de San Francisco quand il tire Sonic avec un dard tranquillisant. Puis là, fait que là, il faut qu'ils partent en road trip pour aller à San Francisco, aller chercher les rings, puis ramener l'équilibre à l'univers. Puis, fait que c'est ça, la majorité du milieu du film, c'est Dr. Robotnik qui leur court après. Eux autres, ils vont dans un bar de rodéo, ils vont genre chez Serge.
Ils vont chez Serge, puis ils ont là, Sonic, il peut faire des scènes de Quicksilver, des films d'X-Men.
Ouais, exact. Ouais, parce que Sonic a le power du bullet time.
Ouais, ouais, il va super vite.
Que,
ouais.
Mais il va tellement vite qu'il peut, genre, c'est ça, faire comme Quicksilver. Mm-hmm. De façon pas mal moins impressionnante visuellement que Quicksilver, je dois le dire. Hein.
Ouais.
Puis, grosso modo, c'est ça l'histoire, je pense.
C'est pas mal ça. Puis là, éventuellement, Robotnik... plus tu t'en parlais, je suis comme... Robotnik est le méchant dans Sonic. C'est un scientifique qui construit des machines, puis il fait ça aussi. Mais je pense que Jim Carrey joue pas Robotnik réellement. Je pense qu'il joue genre Wario ou Waluigi.
Ouais, ouais.
Je pense qu'avec sa moustache, je pense qu'il est secrètement Waluigi. Fait, bref, il leur court après. Éventuellement, ils ont une bataille, puis... Robotnik, il est dans une machine qui vole. Il, ouais. Vaisseau, il, est vraiment...
il y a des drones là-dedans, puis pas des œufs. C'est pas des œufs qu'il y avait dans Sonic.
Ben, le gars, il se faisait. Le nom de Robotnik au Japon, c'est Dr. Eggman. Mm. Fait que c'est pour ça qu'il l'appelle souvent Eggman. Et puis, mais l'affaire dans Sonic, c'est qu'il y avait tout de même le genre de message environnementaliste. C'est comme quand tu pétais un robot, souvent il y a un petit lapin qui se sauvait. Tu comprenais que les animaux de la forêt se faisaient transformer en machines par Robotnik. Là-dedans, c'est juste des drones, mais d'ailleurs, j'aime beaucoup le design de toutes les machines de Robotnik. Je trouve que le design est vraiment nice. C'est comme une version slick, moderne, futuriste, mais qui garde tout de même les lignes et les couleurs des jeux originaux. Fait que ça, j'ai tout de même trouvé ça cool. Comme, quand je me rappelle, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, je suis comme, c'est weird que les machines de Robotnik ont l'air de des versions live action des machines qu'il y avait dans le jeu, mais que Sonic est aussi dégueulasse.
Ouais.
Ils ont éventuellement corrigé ça. Puis ils se battent, ils reviennent à la ville, et puis ça se termine bien.
Ouais.
Et puis aussi, ça se termine encore mieux parce que ça dure comme quoi, 1h33?
Ouais, ben ouais, ça dure 98 minutes officiellement, c'est le runtime sur l'internet. Mm-hmm. Mais nous autres, à midi et 3, on était sortis de là. Mm. Fait que, tu sais. Ouais, c'est pas. Puis, tu sais, le ton de l'humour est beaucoup. C'est comme Ted, un peu. Tu sais, Ted avec Mark Wahlberg, là.
Ouais.
C'est comme Ted, mais genre pour les enfants.
Ouais.
Mais tu sais, leur relation entre Sonic puis James Marsden est très Ted-esque. Fait que tu sais, c'est un petit peu edgy, là. Tu sais, des fois, ils sont comme « Hey, ta gueule! » Puis il y a une longue une grosse scène de pète.
Ouais.
Qui est correcte, là. Tu sais, qui est une... Moi, des scènes de pète, je suis quand même down avec ça.
Ouais, moi aussi. Dire. Mais en plus, il lâche un gros pète, puis James Marsden dit « Tu devrais checker ta fourrure après celle-là. »
Ouais.
Là, je fais « Oh, vraiment graphique, cette
blague! » Une joke de diarrhée. Ouais, puis c'est ça, tu sais, c'est l'humour est beaucoup dans le « Well, that was awkward. Ooh, better get that checked out. » Tu sais, des affaires de même.
Ben, je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, justement, l'humour dans les scènes de Jim Carrey me laisse penser qu'ils ont laissé Jim Carrey un peu... Ils l'ont enlevé à l'aise, puis ils l'ont laissé aller un peu dans ces scènes, puis tu sais... C'est pas comme si ça fitait super bien dans le film, mais non. C'était comme drôle aussi. C'était vivant.
Ben, Jim Carrey, il y a une couple de bonheur. À un moment donné, il y a genre un sbire qui ressemble à... Bon, ça, c'est vraiment... Ça, mais il ressemble au scénariste Nicolas Krief.
Ouais.
Puis il fait comme le puncher dans la gorge. Là,
ouais.
Puis le sonner, je sais pas trop. Ça, c'était vraiment drôle. T'sais. Puis il fait « Arrête, tabarnak! » Puis le gars... Ça, c'est drôle.
Mm-hmm.
Après ça, une autre blague que je me souviens qui est fucking drôle, c'est quand il s'assine avec James Marsden, puis là, il dit « Ah, quand t'étais jeune, puis tu buvais du formula. » Puis là, James Marsden, il dit « Ah, I was breastfed, actually. » Puis là, Jim Carrey, il fait « Great to hear for an orphan like me. » Ça, c'est quand même drôle. Ça n'a aucun esti de rapport. Puis, faire des jokes d'orphelin dans un film pour enfants, c'est quand même whack.
Ouais, ouais.
Là, j'étais comme « OK. » je m'attendais pas à ça. Tu sais, Jim Carrey, il swing quand même des curveballs quand même intéressantes,
mm-hmm.
que le reste du film ne fait pas du tout.
Mais tu sais, il y a une couple de personnages de troisième plan qui sont joués par des acteurs funny comme Adam Pally, puis qui font leur propre petite impro, puis c'est un petit peu drôle.
Il y a la fait que la femme de James Marsden n'est pas là quand toute sa marde pogne est à San Francisco déjà, parce qu'il faut le dire... James Marsden veut devenir policier à San Francisco, fait qu'elle va là-bas checker des apparts sans lui, je sais pas trop, c'est pas clair. Puis là, elle a une sœur qui a un enfant qui s'appelle Jojo.
Ouais.
Puis sa sœur, elle déteste James Marsden. Ça, c'est vraiment weird parce que, tu sais, elle est genre « divorce-le, t'es-tu en train de le divorcer? » Puis tu sais, il y a rien fait qui prouve qu'il devrait être divorcé.
Ouais, non, James Marsden, il est fucking parfait, là.
C'est ça. Puis elle l'haït, genre, puis là, elle se fait mettre dans de beaux draps.
Mm-hmm.
Puis là, ça, c'est elle est drôle aussi, mais tu sais, ça a vraiment pas rapport. Là. C'est du fucking... tu sais, une petite fraise en crémage sur un gâteau, là, que personne veut, là. C'est genre, elle est hot, la petite fraise en crémage, mais genre, elle a pas besoin. Genre, personne veut ça sur son gâteau.
On y souhaite tous d'être sur un meilleur gâteau.
C'est
là.
Ça.
Mais, fait que c'est ça. Ultimement, je pense que... Regarde... pas tant un bon film. Mettons que t'as des enfants qui aiment Sonic, comme affaire que tu vas peut-être être pogné pour avoir dans le background à faire jouer pour toujours.
Toute ta vie, ouais,
pour
c'est ça.
Pour une couple d'années. Je pense que c'est tolérable. Je pense que c'est bien.
C'est mieux que les pattes patrouilles.
Oh, oui, absolument. Ouais. Mais aussi, une affaire que je voulais souligner, c'est encore là, peut pas assez souligner à quel point la refonte du personnage de Sonic sauve ce film-là, puis il est dans sa dégradation. Parce que là, il a de l'air comme d'un toutou que tu veux serrer dans tes bras, mais il est vivant. Il est super beau.
Il y a même un bébé Sonic, tel bébé Yoda.
Ouais, au début, esti. Que ça, je suis sûr qu'ils aussi ont rajouté ça, parce que le bébé Sonic se promène dans un environnement qui ressemble à Green Hills dans le jeu, toute la kit, là, parce qu'il voulait pogner le monde tout de suite. Là. Puis l'affaire qui est triste là-dedans, c'est justement la compagnie qui a fait cet effet-là. Apparemment que Sonic a coûté 90 millions, mais ça a coûté 5 millions de plus pour refaire Sonic, ce qui me semble pas assez vu la job que c'est. Et puis, The Motion Picture Company, ils ont fait faillite après ça.
Ouais,
parce que probablement qu'ils ont low-ballé le travail, comme ils ont mis plein de monde à la porte avant les fêtes, ce qui est absolument terrible. Puis Hollywood ne marche pas de même, mais... peu importe les profits que ce film-là fait, ils devraient se faire shipper une partie parce qu'ils ont sauvé ce film-là.
Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ces effets... C'est... Il y a beaucoup du film qui est exactement ce que je m'attendais, mais tu sais, tellement un soft pitch, là, tu sais... mes métaphores de baseball sont pourries. Là.
Ouais.
Across the plate, là. Tu sais, genre, c'est juste comme...
La balle, elle se rend.
Je veux que tu frappes cette balle. Tellement que ça, c'est comme un peu emmerdant. Borderline, des fois, c'est plate. Le film est plate, là. Puis t'es comme, OK, là, c'est les affaires que je... Tu sais, comme leur longue séquence dans le bord de Hillbilly, là.
Ouais, ouais.
C'est poche, là. Ça dure fucking 15 minutes, c'est poche, puis... Il n'y a pas de bonne blague là-dedans. Pis tout.
On dirait qu'on a essayé de mettre du Midnight Run un peu là-dedans. Ouais. Coup, là,
ouais, c'est ça, ou 48 Hours. Parce que ce film n'avait pas besoin. Mais tu sais, après ça, les affaires qui sont surprenantes du film sont vraiment les meilleures. Tu sais, les affaires qui sont un peu champ gauche. Là, mm-hmm. Jim Carrey, il y a une couple d'autres affaires de joke que tu es comme, ah, OK. Sans pour autant être... C'est très vieillot comme humour, mais c'est pas de l'humour vieillot genre de vaudeville. C'est de l'humour vieillot de genre quand Titus était à Fox puis ce genre de,
ouais,
de
merde, ouais,
là,
ouais.
Là. Des jokes de Malcolm in the Middle un peu là.
Ouais, t'sais, absolument.
Fait que tu sais, ça c'est correct. Puis je comprends pourquoi, c'est que ça veut dire que le monde qui ont écrit ce film-là, ils ont exactement mon âge. Donc ils sont pas capables de penser à une jeunesse autre que la leur. Ce qui est un problème de notre génération, je pense, en général. Mais. Tu sais, reste que c'est comme correct. T'sais, on jokait beaucoup à propos de Sonic, comment ça allait être de la style marde, puis qu'on avait pas hâte de le voir. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'étais pas tant down d'aller le voir. Un samedi matin à 10h30, quand je m'étais couché à 3h du matin, genre. en me disant, là, faut pas que tu sois scrap pour Sonic, ça va être vraiment de la merde si t'es scrap. En tout cas, j'étais pas scrap, mais genre, j'aurais pu dormir plus. Mais. C'était pas le désastre que je m'attendais.
Non, c'était comme je disais, honnêtement, c'est bien correct pour ce genre de film-là.
Ouais. Mais c'est, tu sais, mais dans le panthéon des films qui existent, c'est de la merde. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, je veux dire, on parle de Questipan, puis tu sais, même Horse Girl, tu sais, que j'ai pas vraiment aimé, là, genre, c'est à peu près, là, tu sais, ça se débat pas, là. C'est pas, y a pas de débat possible.
Non, absolument. Non, c'est pas quelque chose qui... Comme je m'en parlais, mettons, comme Paddington qui shine de son excellence, que tu peux accoter ça à bien d'autres affaires.
Ouais,
c'est ça. C'est bien ordinaire.
C'est mais... de la scrap. Tu sais, c'est du... J'allais dire c'est du McDo, mais c'est du Burger King, tu sais. C'est comme... Tu sais, je vais pas aller manger du Burger King, là.
Non.
Puis genre, objectivement, quand j'y pense, je trouve ça quand même dégueulasse. Quand j'en mange, je suis quand même... Peut-être que je pensais que j'avais des mauvaises... Tu sais, j'ai mal gaugé le Burger King. Mm-hmm. Sauf que cependant, il faut noter que moi, je déteste Subway. Pour moi, Subway, ouais. C'est le Book of Henry. Genre. Ça devrait pas exister. Tes mains puent pendant... Ben, il y en a qui passent pas problème là, mais tes mains puent là, sur le fucking Subway pendant 3 semaines, comme quand tu regardes le Book of Henry. tu pues le désespoir du capitaine. En tout cas...
Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire un épisode sur le book.
Mais il faudrait que je le réécoute pour ça. C'est pas ça que je veux. Man.
Ouais, regarde. On verra. Vous nous écrirez dans les commentaires si vous voulez qu'Alex réécrive le book. relise le book. Je pense qu'on va terminer ça de rate là
ouais.
Parce qu'il n'y a pas tant d'affaires à dire sur l'anecdote. La seule affaire que je... Encore là, j'écris dans mes notes. James Marsden est un prince. Il n'est pas Paddington level de rendre un personnage réel de par son acting, mais il est très proche. Mais en attendant, Alex, les gens, ils veulent avoir tes autres opinions de cinéma.
Oui, c'est sur cultmontreal.com, culte Montréal. Mais culte au... non, culte Montréal.
Oui, ainsi que sur Letterboxd.
Ah oui, Letterboxd. Comment je m'appelle sur Letterboxd?
Je pense que c'est juste Alex Rose.
Alex Rose.
Alex Rose, Alex Rose sur Letterboxd. Letterboxd, si vous ne connaissez pas, c'est un média social sur lequel les gens écrivent et notent les films qu'ils écoutent. Ouais. Je suis aussi là-dessus, sous le nom d'Alex Belzile.
Mais c'est étrange parce que, tu sais, moi, j'ai... Tu sais, contrairement, mettons, à toi ou à Pierre-Luc, je voulais pas que mon nom existe dans l'Internet avant, genre, 2014.
Ouais.
Fait que tout le monde me l'a volé, tu sais. C'est trop proche d'un dude qui est dans Guns N' Roses. Là. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, là.
Ouais.
Que tout le monde me l'a chopé. Fait que c'est dur d'avoir mon nom, tu sais, dans n'importe quel média social quelconque, là. Fait que j'ai tout ça des noms par rapport. Genre, sur Twitter, c'est Alex Rose avec 2 barres.
Mm-hmm.
Parce que j'étais loin de même. Avec 1 barre, il y en a déjà un, esti.
Calisse. Maudite affaire.
Ça va mal. Puis tu sais, pourtant j'ai un nom étrange et le monde font. C'est vraiment ça ton nom? Oui. Mais inquiète-toi pas, il y en a assez pour que j'aille pas ce nom-là nulle part sur Internet. Fait qu'inquiète-toi pas, c'est pas si weird que ça. Yannick Belzis, c'est plus weird, tu dois être. T'es même pas le seul. Parce que des fois, j'écris Yannick Belzis, tu sais, je sais pas, je vais aller voir quelque chose que t'as mis sur Facebook. Quand je l'écris dans Facebook, il y a un autre dude qui sort, une autre personne avec qui j'ai des amis en commun. Un Yannick Belzil qui habite, je crois, non, très à Radio-Canada.
Ah, oh, ouais?
Ouais.
Colin. Je sais pas. Je vais aller à la recherche de Yannick.
Il anime sûrement pas la soirée est encore jeune, genre. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait à Radio-Canada, mais très Radio-Canada.
Ben, essayez de le trouver. Mais en attendant, merci de nous avoir écoutés. Faites-nous part de vos commentaires. Dans les commentaires en dessous, et puis même aussi si vous avez des questions de cinéma ou de trucs comme ça, mettez-les dans les commentaires. On pourrait faire un épisode mailbag à un moment donné,
ou
qu'on répond à vos questions. Alors envoyez-nous vos questions en dessous des commentaires sur Patreon, ou même vous pouvez les envoyer pour le moment aux adresses de Trois-Bières.
Mm.
C'est une émission sur Trois-Bières, si vous les avez, puis on va peut-être faire un mailbag d'auditeurs.
Ça pourrait être intéressant.
Mais en attendant, on vous souhaite la bonne journée, mais surtout, on vous invite à aller voir une vue.
Allez-y.
1h27. 1h26.